Je suis au cinéma Scala à Genève avec Jean-Pierre Améris. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir.
Qui est arrivé, malgré les conditions météo difficiles, pour nous parler de son dernier long métrage, Je vais mieux. On s'est souvent vu, on s'était vu à Locarno justement pour Marie Horta, qui avait eu un prix à Locarno. On s'était vu pour Une famille louée, on s'était vu pour Les émotifs anonymes, enfin on s'est souvent vu. Et là, donc c'est une comédie. Rares sont les comédies dans votre filmographie, il n'y en a que trois si je ne me trompe pas. Donc pourquoi avoir choisi la comédie? Ça se prête aussi à l'histoire de ce quinquagénaire qui a mal au dos et qui cherche des causes physiques alors que les causes sont peut-être psychologiques, d'une part. Et d'autre part, ma question, je sais que c'est inspiré librement du roman éponyme de David Fonkinos. Quelle est la part de liberté que vous avez prise?
D'abord sur la comédie, c'est vrai que sur 11 longs métrages, donc c'est que ma troisième comédie, mais j'espère en faire d'autres. C'est quelque chose, c'est un genre que j'ai découvert, que je me suis autorisé tardivement. J'étais persuadé que je n'en serais jamais capable, donc, et je m'y suis mis avec Les émotifs anonymes, qui étaient très autobiographiques, hein, puisque moi j'étais allé 2 ans aux émotifs anonymes, j'ai bien connu ce que c'était ce handicap de l'émotivité et de la timidité. Et donc, c'était une évidence pour moi, ayant un peu dépassé ce handicap, que de le présenter sous forme humoristique. D'abord pour avoir de l'autodérision, et puis surtout pour permettre aux gens qui en souffrent d'apaiser les choses. Le rire, c'est quand même la meilleure thérapie.
Et donc, peut-être par le rire, on peut dire plus aussi.
Je crois qu'en effet, oui, on peut dire plus, et puis que les gens sortent du cinéma avec une pulsion de vie, avec de l'espoir. C'était la même chose pour Une famille à louer, sur le thème de la vie de famille. Et là, pour le coup, ce n'est pas un scénario original, mais quand j'ai lu le roman de David Fonkinos, je me suis tellement identifié au personnage et à son mal de dos que j'ai eu envie de l'adapter. J'ai eu l'impression que ça parlait de moi. En effet, moi, je souffre du dos depuis l'adolescence. Je souffre là en ce moment. Donc, ça m'amusait quoi, de parler de cette douleur qui est souvent révélatrice de problèmes autres. Quoi. Mmh. La question de Fonkinos, c'était vraiment à quoi on a mal ? Qu'est-ce que le corps nous dit, quoi. Et est-ce qu'on a mal au travail? Est-ce qu'on a mal à la famille? Est-ce qu'on a mal au couple et à l'usure du temps? Est-ce qu'on a mal aux enfants qui grandissent, qui partent de la maison? Le personnage réunit un peu tout ça. Et ce qui fait comédie, je crois, c'est que, en fait, comme un petit Don Quichotte, il veut comprendre, il veut affronter les raisons de son mal de dos, qui tiennent beaucoup à du non-dit.
Déjà avec ses parents.
Déjà avec les parents, alors c'est un peu différent. Alors c'est là où David m'a laissé toute liberté, qu'il est inscrit au générique librement adapté, même si tout de même c'est assez fidèle à l'esprit, à l'humour de Fonkinos, et il y a des scènes qui sont telles quelles dans le roman. Mais David est plus caustique que moi, et notamment dans le roman avec les parents, c'était plus dur. Moi je suis plus affectif, plus sentimental, et là ce que je voulais raconter, c'était ce qui s'est passé moi avec mes parents, la difficulté dans une famille où ça communiquait peu, où ça se touchait jamais un geste de tendresse, par blocage, pas par manque d'amour, que ce garçon aille voir de ce côté-là, quoi, hein, parce que moi ça a toujours été une frustration, quoi. Quand les parents disparaissent, on reste avec cette frustration, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment parler, qu'il n'y a pas une manifestation d'un amour qui était là, encore une fois,
hein. Des questions en suspens.
Des questions en suspens, plein de secrets, de non-dits, quoi, hein. Et quand les gens partent, on reste avec ça, et littéralement, ça pèse. Ça pèse, et ça pèse physiquement. Peut-être physiquement, dans le dos, ça se manifeste d'une façon ou d'une autre. Et donc, mon personnage fait quelque chose que je n'ai pas eu le courage de faire dans la vie, il va voir les parents, et il provoque une espèce de parole, mais même le père, qui est joué par le merveilleux Henri Guibel, qui faisait Salomon dans Les aventures de Rabbi Jacob, qui dit, bien sûr qu'on t'aime, enfin c'est une évidence, mais c'est vrai qu'on, c'est aussi une génération hein, qui parlait sans doute moins, qui exprimait moins les choses.
Mais donc, sous prétexte de convenance, on était pudique.
Exactement, une des phrases que j'ai le plus entendue, c'est, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas se faire remarquer, ça ne se dit pas, de quoi on va avoir l'air, et puis, mais c'est vrai que c'était une drôle de chose, moi, dans la famille, hein, c'est ce que j'aime bien exprimé dans les films, et puis finalement on est nombreux à avoir connu ça, je crois, mais que dans la famille même on soit gêné, quoi, avec les parents, avec un frère, une sœur, que dans cette famille même on soit gêné par la promiscuité, par l'intimité, que, voilà, qu'on soit pas à l'aise au sein de la cellule familiale.
Alors, je vois pas tout déflorer du film, mais à travers le personnage principal Laurent, interprété par Elmos Nisno, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est gentil partout, il arrondit les ongles, tout va bien, mais en même temps, il subit. Il est tout le temps la victime. Et là, tout d'un coup, la crise de la cinquantaine, quinquagénaire, il réalise qu'il doit se secouer, s'affirmer.
Il est vrai que c'est l'histoire d'un petit être humain, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, il est comme nous tous, comme moi, hein, c'est-à-dire petit être humain, un peu endormi quoi, au milieu de sa vie, hein, et qui fait beaucoup le dos rond, qui finalement son métier, il est architecte, c'est pas à la hauteur des ambitions qu'il avait. Voilà, avec sa femme, ça va à la fois très bien et en même temps quelque chose de l'usure du temps fait son œuvre, voilà, et dont elle semble souffrir davantage que lui. Avec les parents, on l'a dit, ça ne communique pas. Sa fille est partie de la maison et elle n'arrive pas à se faire à l'idée d'avoir un gendre. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup fait le dos rond et finalement sa douleur, dans un premier temps, qui est le temps du burlesque, en bon hypochondriaque à la Woody Allen, quoi, ça le fait paniquer, il est sûr d'avoir quelque chose de grave. Et puis quand il voit qu'il n'y a rien de grave, là finalement cette douleur qui était d'abord son ennemi va devenir un peu une alliée, en tout cas un aiguillon qui va le pousser à se bouger, à se réveiller et finalement à renaître, à dire ce qu'il n'avait pas dit, à se révolter au travail où il est écrasé par un collègue, et puis à regarder peut-être de nouveau autour de lui justement. Hein. C'est vraiment un signal d'alarme, cette douleur au dos, hein, qui disait quelque chose et qui va le réveiller. C'est pour ça que le film va vers le positif, et sans tout révéler, dire que mon hypothèse, moi, hein, différente de celle du roman, là, pour le coup, c'est que pour se sauver de son narcissisme, il faut travailler, je crois, au travail, c'est-à-dire faire quelque chose, quoi que ce soit. Là, c'est un film, mais ça pourrait être... Lui, dans le film, c'est une passerelle, mais ça peut être un repas pour les gens, enfin, participer à quelque chose, mais faire quelque chose, et quelque chose qui soit utile aux autres, enfin, voilà, qui nous relie autrui. Aux autres. C'est vraiment le message du film. Pour sortir de sa petite douleur, il faut vraiment se relier aux autres, faire partie de la collectivité. Lui dit qu'il rêve de faire une œuvre, peut-être pas une grande œuvre, mais une œuvre utile. Et moi, c'est la même chose avec les films. Et je sais pas ce que c'est un film utile, mais c'est tout de même un film qui déjà peut éventuellement faire du bien. Je suis content quand je vois les gens sortir du film et dire on s'est bien identifié, et votre film nous allège.
Et puis c'est un film qui a une dimension par rapport à notre société qui est quand même dans le consumérisme, dans l'écocentrisme. Ça montre qu'il ne faut pas être nombriliste, qu'il faut s'intéresser aux autres, ce qu'on a un peu perdu comme valeur.
C'est ce que je ressens en tout cas d'une société qui nous malmène. Et moi, plutôt, peut-être moins que d'autres, hein, mais quand je suis dans le métro, même à Paris le matin, je me dis, mais quand même, on est malmené, les gens sont malmenés, on est dans une société de la performance, on est quand même tous écrasés, il faut être performant dans le travail, dans la famille, dans le couple. Vraiment, les gens sont écrasés, et je crois que c'est un signe des temps vraiment clair, je crois, c'est le succès de tous ces livres de développement personnel, quoi, hein. Manger mieux pour aller mieux, ranger sa maison pour avoir l'esprit plus clair, ça va prendre à respirer, ce que moi je ne sais pas faire. C'est pour ça que je me suis mis, moi, tous ces livres, je les ai achetés. Donc je me suis mis à la méditation de pleine conscience. Enfin, c'est vrai qu'on est là avec nos mots, quoi, M-O-U-X, hein, et vraiment, c'est vrai qu'à avoir mal ou avoir des problèmes au ventre ou quoi. Et je pense que ça vient aussi quand même de tout ce que cette société nous fait subir.
Alors, pour revenir au film « Je vais mieux », il y a des influences multiples. Moi, à un moment donné, je pensais que Laurent, il me faisait un peu penser à Topaz, qui a cette routine, et puis tout d'un coup, il y a un stimulus extérieur, ou à certains films, à certains livres de Dino Buzzati. Ah. Donc, est-ce que vous avez des gens comme ça qui vous ont influencé, ne serait-ce que dans la mise en scène, dans les décors?
Bravo pour Dino Buzzati, parce que c'était une vraie, c'était une vraie référence, et vous êtes bien la première à le voir, en tout cas. Alors là, bravo.
Ouais, moi, c'est parce qu'il y avait l'italien au bac, donc c'est peut-être pour d'accord. ça.
Et vous voyez, c'est vrai que ça appartient, et d'ailleurs, Fuentino, je trouve. Hein, et moi, j'ai tout de suite vu son personnage, le petit être humain comme ça, comme appartenant à une famille, disons, d'auteurs. Moi, ça pouvait être aussi le petit bonhomme chez Kafka, vous savez, alors en effet, Dino Buzzati, mais Italo Svevo aussi, hein, je trouve, et puis de l'autre côté de l'Atlantique, Philip Ross, enfin, hein, il y a toujours aussi, hein, il a d'ailleurs parlé de son mal de dos dans la série des Zuckerman, donc il y a peut-être comme ça
une palette,
hein, une famille comme ça d'auteurs qui ont traité de manière aigre-douce, enfin, avec un certain humour comme ça, de l'être humain et de sa douleur.
Donc toutes ces influences, vous en avez fait un melting pot, et puis il y a des petites touches comme ça. Il y a un décor qui m'a particulièrement interpellé, c'était le décor de l'hôtel où il va s'établir pendant le film.
C'est vrai que moi, je ne voulais pas faire un film naturaliste. David Fuentinos me dit que s'il avait fait le film, lui, il l'aurait fait de façon plus réaliste. Hein. Le film n'est pas complètement extravagant, hein, mais tout de même, il est un peu décalé. Mais comme les émotifs anonymes ou une famille allouée, c'est-à-dire vous n'y verrez jamais de scène de café ou de scène de rue, on ne voit pas de voiture. Hein. Donc il y a quelque chose d'un peu onirique. C'est ça qui peut faire penser, je crois, par exemple, à ce Dino Buzzati. C'est que ramener dans le quotidien un petit quelque chose, une petite touche fantastique. Parce que C'est cette douleur au dos qui lui arrive à la cinquième seconde du film qui, tout d'un coup, le réveille et en même temps lui fait vraiment regarder autour de lui. Et si on regarde bien le monde autour de soi, il est un peu étrange. Mm-hmm. Tout, il regarde tout comme si c'était la première fois, mais son patron, ses collègues, ce collègue harcelant. Donc il y a vraiment une fantaisie. Et en effet, à un moment donné, c'est un récit initiatique. C'est un personnage qui perd tout, se retrouve dans un no man's land et puis il va renaître et construire sa passerelle, faire son œuvre. Mais dans cet hôtel où il tombe, je voyais ça vraiment comme une image de cinéma, quoi. Oui. Plus un hôtel de cinéma qu'un hôtel réel.
Presque hors du temps. Hein.
Vraiment hors du temps, hein. Comme si tout ça était rêvé par le personnage. Et donc on le voit arriver là, dans une rue pavée, très belle, avec juste un néon hôtel. Et sans prétention, hein, mais plutôt les images, vous voyez, à la Fellini, ou quoi, où on sait qu'on est... On est passé de l'autre côté.
Jarmusch un peu, parfois, certains Jarmusch.
Vous vous souvenez tout à fait hein, de Mystery Train et tout, quoi, où il y avait cet hôtel et tout, qui a été une des références visuelles. Et notamment, on y voit là un personnage de concierge d'hôtel, Sacha Bourdeau, quoi, un merveilleux acteur. Et là, c'est plus un groom à la façon aussi d'Hôtel Budapest,
voilà,
par exemple,
hein,
ou des
avec une touche surréaliste.
Voilà, il y a quand même cette touche. Moi, j'ai vu ça. Vous savez, pour faire un film, je crois qu'il faut en avoir une vision et que tout aille dans le même sens. Après, hein, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, il faut... Il me semblait que le plaisir qu'on pouvait prendre au film venait aussi de ce décalage avec le réel, pour pas que ce soit un film psychologisant, quoi. On connaît les thématiques du film, mais c'est aussi un voyage amusant.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites, Jean-Pierre. Vous parlez de tableaux. Il y a des tableaux dans le film, chez l'ami dentiste, Harry Habitant, qui est truculent, et avec sa compagne qui se donne corps et âme avec ses pinceaux et ses gouaches à faire des tableaux qui rappellent un petit peu l'expressionnisme de Munch, comme disent les gens du Nord, Munch, comme disent les francophones. Et on voit ces dentitions là qui ont l'air d'hurler leur douleur. C'était symbolique par rapport aux mots que traverse Laurent.
Pour faire un film, encore une fois, il faut avoir une vision et un motif. Hein. C'est comme on est comme un musicien, quoi, hein, qui a un thème, quoi, pour une musique, et on va en faire des variations. Le motif, là, c'est l'être humain et sa douleur, quoi, hein. Donc il fallait que tout rapporte à ça. Et dès la première image, en effet, on voit un des tableaux l'épouse du personnage d'Harry Habitant, qui est le meilleur ami du héros, de Laurent, et elle fait des tableaux et elle est obsédée par le cri, quoi. Et donc, évidemment, l'évidente référence est le cri d'Edouard Munch ou Munch. Hein. Aussi, un souvenir d'adolescence, c'était l'affiche de The Wall, quoi, de Pink Floyd, quand Alan Parker avait fait le film. Donc, c'est quand même le cri. C'est quand même l'être humain est quand même beaucoup ramené à la douleur, hein, que ce soit le petit bébé qui arrive, hein, ou le vieillard qui s'en va, c'est quand même ça, quoi, ce cri magnifique dans le tableau de Munch, le petit bonhomme sur le ponton est dépassé, quoi, par finalement l'infini de ce qui l'entoure.
Alors, malheureusement, je vois qu'on nous fait signe, Jean-Pierre, donc je dois bientôt vous quitter. Rapidement, le casting, donc des gens avec qui vous avez déjà travaillé, on retrouve Berléand, on retrouve Alice Paul, enfin, on retrouve des acteurs que vous avez déjà dirigés. Ça vous est venu à l'écriture déjà, le choix, ou à quel moment ?
Le premier choix qui est venu à l'écriture, c'est Eric Elmostino. Vraiment, il m'inspire justement, encore une fois, vous l'avez bien vu, quoi, dans le film, hein, et il me rappelle ces petits bonhommes de Kafka, mais aussi les personnages burlesques. Hein. Il a quelque chose de Buster Keaton, et quelque chose de Charlot, de Roberto Benigni. Hein. Il est frêle, hein, cette petite silhouette, en plus tordue là, avec le mal de dos, ses cheveux tout ébouriffés. Donc c'est quelque chose de mignon, presque un personnage de Sempé, quoi. Hein. Il a quelque chose qui m'évoquait presque la BD. Et je trouvais ça beau et émouvant de voir ce corps-là, quoi, affronter tout ce qu'il a affronté dans le film. Et puis c'est un corps burlesque, hein, donc il est très drôle. Alice Paul, je l'avais faite débuter dans Les Émotifs Anonymes, et elle aussi, elle a quelque chose de comique. C'est assez rare, finalement, les actrices qui ont en elles-mêmes un visage, des expressions, une façon de marcher burlesque. Et puisque là, de plus, elle joue, elle, la nouvelle rencontre, le nouvel amour du héros, lui ayant mal au dos et elle ayant mal au ventre. Donc c'est les deux qui vont se rencontrer et bien se compléter. François Berléand, en effet, j'avais pas tourné avec lui depuis longtemps. Et c'est vrai que lui aussi, c'est de la fantaisie. Tous les acteurs qui composent la troupe du film, leur identité, c'est la fantaisie, quoi. Lise Lametti, Harry Habitant, Henri Guibet, c'est un talent, c'est un don, hein, ça, et plutôt, d'avoir quelque chose de drôle en soi. Parce que comme le film est très subjectif, vu par le personnage de Laurent, il fallait que tout le monde autour ait une étrangeté, quoi. Et c'est vrai que c'est cette étrangeté qui, moi, m'attendrit presque, l'étrangeté de François Berléand. Mais c'est savoureux, quoi. Je disais toujours, le film, c'est un peu Alice au Pays des Merveilles. Du moment où il a sa douleur, Laurent, il bascule dans un monde où tout semble savoureux. C'est que des gens qui lui disent « Mais réfléchis, la réponse est en toi. Tu devrais aller voir si, il y a une magnétiseuse. » Enfin, c'est un vrai récit initiatique, un chemin.
Je vois qu'il piève d'impatience. Merci, Jean-Pierre.
Merci à vous.
Et rapidement. Bon. Voilà, alors on va devoir vous quitter, Jean-Pierre. Donc, rapidement, est-ce que vous êtes déjà à l'ouvrage, de nouveau, l'écriture ?
J'ai tourné, donc, cet automne, un film pour la télévision française, pour France 3, sur l'illettrisme. Moi, il y a des sujets auxquels je tiens vraiment à m'attaquer, quoi. J'avais fait un film sur la violence conjugale, j'ai fait un film sur les migrants de Calais, La maman est folle avec Isabelle Carré. Et là, illettré, donc avec Kevin Azaï, ce jeune acteur qu'on avait vu dans Les combattants, Sabrina Ouazani et Annie Cordy. Et une plongée, quoi, dans le monde de l'illettrisme. En France, on a quand même 3 millions d'illettrés, les enfants lisent de moins en moins, donc je crois que c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que j'ai voulu le faire pour la télévision, parce que je me dis que là, peut-être, je peux toucher des gens qui n'iraient jamais voir un film comme ça, sur ce sujet-là, au cinéma, notamment les gens concernés par l'illettrisme. Et ensuite, pour le cinéma, je dois faire une adaptation, là, écrite déjà, mais de nouveau une adaptation de David Lodge, Pensée secrète, de nouveau avec Isabelle Carré.
On se réjouit, Jean-Pierre. Merci beaucoup. À tout bientôt et bravo pour ce film.
C'est gentil, hein, merci.
Super. Merci. Merci à vous.